l'écho des rap, l'écho des rap, l'écho des rap.
Bonjour et bienvenue sur l'écho des rap, le podcast qui explore le rap de la scène à l'écoute. Aujourd'hui, on rencontre Luambé, une artiste dont le style s'inspire de nombreuses influences, notamment le rap. Elle va nous parler de la manière dont elle perçoit ce genre musical dans notre société, mais aussi de sa musique et de son parcours. Du coup, Luambé, est-ce que tu peux te présenter un peu plus afin qu'on en sache un peu plus sur toi ?
Alors moi, c'est Luambé et je suis artiste musicienne à Grenoble. Productrice, compositrice, chanteuse, voilà, je fais un peu tout dans la musique, dans le projet. Et je vais mélanger pas mal d'esthétiques, mais notamment les esthétiques musicales de l'océan Indien, avec plutôt celles des musiques électroniques et du hip-hop, et je rappe aussi en créole.
Comment est-ce que tu décrirais le rap à quelqu'un qui n'en écoute pas ?
Pour moi, le rap, c'est comme... Comme que certaines musiques de l'océan Indien, justement, le côté, l'urgence de dire. Moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est quand on a besoin de dire de manière un peu urgente. Du coup, on va peut-être utiliser plus de mots, moins s'attarder sur la mélodie, sur la lenteur de la mélodie et du rythme. On va vouloir s'encadrer un peu les choses. Et aussi le côté essayer d'être un peu impactant, avoir envie que la personne en face... soit un peu percuté par ces mots-là et par ces propos. Donc en termes d'esthétique, je dirais que c'est un peu ça. Et après, le rap, pour moi, c'est aussi très lié à une sorte de mentalité qui peut avoir des dérives, en fait, aussi. Mais une sorte de mentalité qui est de se dépasser, être fier de soi, de ce qu'on est, de son identité, d'où on vient, de notre vécu. Et donc ça a des bons côtés, comme ça peut avoir aussi des mauvais côtés, un peu plus compétitifs. Et voilà, d'un aspect, il y a tout un aspect aussi de descendre les autres, qui moi m'intéresse un peu moins.
Comment est-ce que tu as découvert le rap ?
Alors, en fait, le rap, c'est quand même devenu le genre musical un peu majoritaire qui a tout déchiré dans les années... Enfin, quand moi j'ai grandi, donc dans les années 2010... déjà depuis les années 90 en réalité, mais moi quand j'ai commencé à vraiment écouter la musique, à choisir un peu la musique que j'écoutais, donc au collège et au lycée, c'était quand même ce qu'on entendait le plus, parce que même si c'est pas... parce que moi je suis arrivée plutôt par le rap US, plutôt des États-Unis, j'écoutais assez peu de rap français. Mais en fait, il y en avait un peu partout. Il y en avait même, comme j'ai grandi à La Réunion, là-bas, on écoute beaucoup de tout ce qui est musique dancehall, reggaeton, tout ça. Les musiques, il y en avait toujours un petit couplet, quoi. Enfin, il y a vraiment cette période où tu avais le couplet chanté, le refrain, machin, et toujours le petit couplet de rap. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter, mais plutôt par l'anglais, enfin, le rap anglophone.
Et du coup, il représente quoi pour toi, le rap ?
Je trouve le rap, c'est toujours un truc très percutant dans le fait de dire des choses. Et que ça reste aussi, je trouve que parfois, ça permet d'ancrer dans la tête des gens qui écoutent plus de mots que peut-être dans une chanson. Enfin, vraiment des phrases un peu percutantes, avec l'idée de punchline, tout ça, et un côté rester, laisser une trace chez les gens. C'est aussi le côté direct, en fait, moi, que j'aime bien. C'est aussi pour ça que j'ai commencé comme ça. C'était parce qu'au-delà de faire de la... Enfin, le côté faire de l'abstraction, de la poésie, écrire un texte avec peu de mots, j'y arrivais assez peu. J'avais plutôt envie d'être un peu exhaustive ou de pouvoir, en tout cas, dire plein de choses. Donc, pour moi, c'est plutôt un terrain de... Enfin, assez libre, en fait, pour écrire. Parce que... je peux mettre plus de mots que d'habitude. Mais par contre, après, il y a plein d'autres contraintes de faire des rimes, d'avoir vraiment un truc rythmique très, très fort. Et le rap, c'est aussi en fait, un peu l'aspect communautaire. Je remarque quand même par rapport à d'autres musiques ou d'autres façons d'écrire, etc. Dès qu'on rentre dans la sphère un peu rap ou qu'on dit qu'on fait du rap, il va y avoir quand même beaucoup de... Enfin, ça ouvre une porte sur une communauté parce qu'il y a des communautés qui sont rap, donc vraiment identifiées rap, hip-hop, qui vont organiser les open mic, qui se montent encore un peu, avec l'idée de crew, par exemple, ou de... Là, je pense à Grenoble, il y a 21h10, qui ramène un peu ce truc-là aussi d'être un crew avec des personnages à l'intérieur, et ça, je trouve ça génial. Après, moi, je ne suis pas dans ces communautés pleinement, mais... il y a toujours l'idée avec le rap, je trouve, d'essayer de retrouver un peu son groupe ou aller à des open mic ou aller à des soirées comme ça où on peut être ensemble, écouter les textes des autres, etc. Et moi, d'ailleurs, j'ai écrit un texte sur ça, parce que de l'autre côté, il y a un côté un petit peu, un mauvais, pour moi, un mauvais côté un peu de l'open mic qui est justement de ne faire que de se saucer soi et en fait de juste se comparer aux autres, être dans une sorte de compétition. Oui, c'est de l'expérience. Enfin, c'est un endroit où on expérimente des choses, mais des fois, c'est aussi un peu la porte ouverte à dire tout et n'importe quoi. Et sauf que personne, enfin, on n'est pas là non plus pour dire à la fin d'un freestyle de quelqu'un, oui, bah ça. Enfin, on n'est pas là pour donner une note ou des conseils. C'est pas le but. Et en même temps, bon, bah des fois, on a envie de dire, ouais, bah pourquoi tu parles comme ça de ma mère ? Enfin, genre, c'est pas, ça marche pas, quoi. Enfin, donc voilà, c'est un peu challengeant les open mic, mais c'est intéressant. Après, voilà. C'est pas, pour moi, c'est pas un endroit qui est encore assez inclusif pour plein de raisons. Et mais en même temps, ça permet de tester plein de choses. Donc il faut s'armer en dehors, trouver justement ses équipiers, ses coéquipiers, coéquipières un peu pour y aller ensemble. Je pense que c'est ça qui marche bien.
Et du coup, comment est-ce que tu crées tes morceaux, toi ?
Alors, bah, comme je compose, c'est vraiment pratique parce que je peux faire les deux en même temps, écrire et composer. Et du coup, lier les deux vraiment. Donc, en général, je compose, je commence à faire une instru. Et après, je commence à écrire pour donner l'intention. Moi, j'ai besoin d'écrire à un moment donné pour ensuite développer l'instru dans l'énergie que je veux. Donc, si je commence à écrire un texte vénère un peu, ou alors un texte nostalgique, ou voilà, ben, en fait, après, ça va orienter du coup la composition, la partie musicale, quoi, enfin instrumentale. Les textes que je commence à écrire sont très lié à mon mood du moment, à mon humeur et à ce que je vis dans le présent. C'est ça, c'est le côté direct, mais aussi direct pour adresser un message, mais aussi direct dans le, comment dire, dans le vécu, quoi. C'est, ah, je ressens telle chose, je vis telle chose, j'ai besoin de le dire maintenant. Du coup, c'est là que je suis en général la plus inspirée pour écrire. Et après, une fois passé un peu ces premiers jets, ces premières idées, ben là, on va peaufiner. Moi, je vais aller chercher des mots. En plus, comme j'écris en créole, il y a plein de mots très spécifiques en créole ou en malgache qui ont une certaine image et je vais les chercher parce que j'y pense pas toujours de manière, vu que je parle pas la langue régulièrement, j'y pense pas tout de suite, donc je vais les chercher, je tombe dessus, je fais, ah oui, il y a ce mot, et là ça m'ouvre tout un autre imaginaire, donc j'ai envie d'aller là-dedans, de creuser. Et voilà, en général, j'ai mon dictionnaire créole, mon dictionnaire malgache, mon dictionnaire des synonymes et un dictionnaire de rimes. Voilà. Et là, je commence à faire le savant fou et je cherchais un peu plein de trucs partout, plein de références pour écrire ce que j'ai envie de dire au final, quoi.
Ok, tu me l'as un peu dit déjà, mais du coup, de quoi tu t'inspires en général pour créer tes textes ?
C'est surtout mon humeur de l'instant présent. Forcément aussi, je vais être très influencée par ce que j'écoute comme musique à cette période-là, surtout pour le type de flow de rap. Donc si je me mets à écouter... pendant une période du rap très, on va dire, boom bap, un peu à l'ancienne et tout, bah, je vais effectivement trouver l'instru un peu plus lente, un BPM autour de 90-100, et je vais écrire un peu comme un freestyle, quoi, boom bap. Et des fois, je vais écouter, par exemple, de la musique beaucoup plus un peu cloud, avec de l'autotune, mais plus dans un truc un peu pop, où je vais pouvoir un peu plus chanter, rajouter des voix, et voilà. Mais par rapport à ce que j'écris, ça va quand même être très souvent lié à ce que je vis sur le moment.
Est-ce que du coup, tu as des sorties ou des projets en ce moment qui vont arriver ou que ça fait pas longtemps qu'ils sont là ?
Ouais, bah, j'ai sorti mon premier EP en septembre. Donc l'EP s'appelle Paré et il y a 5 titres. Paré, c'est, bon, ça se dit aussi en français, mais en créole, ça veut vraiment dire prête, quoi. Je suis prête. Donc c'est plutôt, déjà, je pense au fait d'être... après quoi, enfin dans la suite. Et puis sinon, je fais un peu des concerts. Là, j'ai moins de concerts de prévu parce que je suis en composition pour l'album, enfin la suite quoi, du projet. Donc c'est vrai que ça me laisse un peu moins de temps pour jouer. Mais je joue quand même pas mal dans la région de Grenoble. Et je sais pas ce que... Alors à l'instant où je parle, je prépare les Inouïs, l'audition régionale des Inouïs du printemps de Bourges. Donc c'est un dispositif qui de repérage de projet. J'ai aussi un clip en ligne sur YouTube qui s'appelle, sur un des morceaux de l'EP qui s'appelle Tangane.
On va changer un peu de registre. Comment est-ce que tu perçois l'engagement dans le rap actuel ?
Il y a un peu différentes façons de s'engager parce que pour moi, il y a un engagement qui est symbolique, politique souvent. Enfin, c'est le fait que le rap, c'est quand même né aussi beaucoup. On parle de musique urbaine, mais moi, quand j'avais fait un peu de recherche sur le rap et le début du rap, c'est même plutôt une musique périurbaine. Enfin, ça, aux États-Unis, c'était ceux qui étaient exclus du centre-ville qui ont des thunes, quoi. Donc la banlieue, c'est pas la ville, en fait. C'est ce qu'il y a autour. Et des fois même, il y avait des frontières très nettes, des murs, etc., pour invisibiliser tous ces gens-là et tout. Donc il y a quand même un côté très politique et aussi de l'engagement en tant que personne exclue de quelque chose. Enfin, oppressée ou exclue de quelque chose. Du coup, je trouve que... donc il y a du, comment dire, il y a toujours de l'engagement dans plein de textes. Après, on est aussi passé, vu que ça s'est vachement démocratisé, le rap, etc., bah, il y a aussi vachement plus de textes d'engagement, plutôt de l'ordre de l'intime. Donc ça va être plutôt du rap, on va dire, intime sur soi, sur Orelsan, par exemple, c'est un peu à quel point c'est un nulot, c'est un ado un peu, un adulte raté, un ado. Enfin voilà, il y a un peu ce truc-là. D'anti-héros, quoi, à l'inverse de on vient d'une vie de galère et on a surpassé ça et maintenant on est des monstres et des bêtes de scène. C'est plus le côté intime, un peu on est fragile, on a des failles et tout ça. Je trouve ça intéressant dans le côté d'admettre qu'on a des failles et en même temps, ben, des fois on perd un truc un peu justement d'engagement un peu politique et on arrive sur quelque chose de très auto-centré et très un peu ouin-ouin. C'est toujours, voilà, c'est des limites qui sont pas faciles à voir et à jouer avec. Mais du coup, des fois, ça me manque un peu, je trouve, d'engagement. Même si on parle que de soi et de ses émotions, pour moi, c'est important quand on a un espace, quand on prend cet espace aussi dans un open mic, par exemple, ou même juste sur les réseaux ou sur une scène, ben, de se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux gens et qu'est-ce qu'on a envie que ça bouge un peu chez les gens et en nous. Et pas faire simplement juste un état des lieux ou un exercice de style. Ça, c'est rigolo, je trouve, un atelier et tout. Vraiment, c'est très cool pour commencer le rap, etc. Mais quand on fait le choix aussi d'être un peu artiste, des fois, même si c'est pour faire des textes un peu rigolos. Enfin, moi, j'adore l'humour dans la musique, mais pour moi, il faut que ça vienne toujours d'un engagement personnel très fort, enfin, qu'on soit convaincu de pourquoi on le fait. Et, enfin, voilà, je trouve que c'est un peu assez important. Parce que des fois aussi dans le rap, comme il y a cet amour de la punchline et des jeux de mots, et ben, on peut vite tomber dans des freestyles aussi où c'est genre une phrase, enfin, aucune phrase, enfin, il n'y a pas un tout qui dit quelque chose, c'est vraiment genre juste des petites punches comme ça. Des fois, c'est rigolo, mais des fois, quand c'est sur tout un projet, tout un album, par exemple, où en fait, tu te rends compte que les textes, c'est tout le temps faire le petit exercice de style marrant, la petite rime qui va bien, mais en fait, derrière, il n'y a aucun propos, parce que ça arrive. Ou alors qu'on juxtapose plein de propos différents, et au final, il n'y a pas d'image globale, et que c'est juste, on attend ça du rap. Dans le rap, on attend à ce que ce soit engagé sur tel truc, tel truc, tel truc. Des fois, ils vont cocher les cases, et c'est pas incarné, quoi. Donc pour moi, l'engagement, c'est ça aussi, c'est incarner vraiment ce qu'on dit.
Ok, et du coup, comment est-ce que toi, tu définirais le rap engagé ?
Le rap engagé, pour moi, c'est un rap incarné. Et du coup, c'est pas simplement dire les choses parce qu'on attend de nous qu'on dise certaines choses ou parce que c'est bien vu dans le rap ou dans le milieu ou que c'est ça qu'on doit défendre. C'est vraiment, vraiment défendre ces choses. Et aussi, au-delà de ce qu'on dit et de comment on l'incarne, de ce qu'on dit, bah, c'est comment on l'incarne sur scène, comment on se comporte sur scène, comment on se comporte avec d'autres musiciens, musiciennes aussi. Ben, je pense toujours à cette histoire d'open mic où on peut prôner l'amour, la bienveillance aussi. Enfin, il y en a qui font ça dans le hip-hop, il y a ce truc-là aussi. On combat les oppressions et tout, mais en fait, si derrière, tu veux pas lâcher ton micro parce que t'as envie de faire tes 3 fois 16 mesures et que en fait, tu laisses la place à personne d'autre, pour moi, ça c'est pas engagé ni incarné, Enfin, c'est joli de dire des choses, mais il faut aussi l'incarner dans le reste du temps. Et aussi, ben, après, c'est dans la vie. Pour moi, c'est très lié à la vie quotidienne aussi, de comment on incarne un peu les propos qu'on va défendre, nous, en tant qu'artiste, quand on écrit du rap. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, dans la vie, on agit aussi autrement que par l'art, même si l'art, c'est vraiment super utile et c'est de l'action. Mais est-ce que, par ailleurs, on pense aussi aux autres actions, à la force qu'on peut donner dans d'autres choses, de l'assaut, enfin des assauts, de la transmission.
Ok, quand on parle de dépolitisation du rap, ça t'évoque quoi ?
bah, ça s'est démocratisé. Donc aujourd'hui, plein de gens différents font du rap. C'est pas non plus que des personnes qui sont dans des situations de précarité ou... Enfin voilà, et du coup, comme le rap a quand même par essence ce truc de raconter quelque chose d'un peu dur ou d'un peu triste ou d'urgent à dire, de combatif un peu, voilà, et ben les gens vont chercher ces émotions-là, ils en ressentent, mais ils vont ressentir ça à d'autres endroits, donc peut-être sur des trucs très intimes de, par exemple, être un ado à la campagne, enfin, des trucs comme ça. Et pour moi, ça c'est hyper politique. Et du coup, bah... Dépolitiser, c'est aussi sortir du contexte du monde dans lequel on est. C'est-à-dire que oui, on peut être triste et aller mal. Pour moi, ça devient politique quand tu arrives à faire sentir que c'est une question de société. C'est une question de société, que même si tu parles pas clairement de politique, etc., mais juste, il y a des gens qui sont en dépression aujourd'hui parce qu'ils sont isolés, même s'ils viennent pas, je sais pas, comme le rap de banlieue ou de milieu précaire, c'est des gens qui sont tristes parce qu'ils sont isolés. Et ben, c'est sociétal. Pourquoi dans notre société on se retrouve isolé comme ça? Et pour moi, ça devient politique, ça rend le truc politique.
Comment est-ce que tu perçois un rappeur ou une rappeuse engagée quand sa musique elle est produite par des boîtes de production qui suivent la logique du marché?
Ah, ça c'est la grande question. Est-ce qu'on peut rester politique et engagé quand on est dans l'industrie? Ben là, c'est aussi moi ma grande question. En vrai, on peut vite juger. Moi, j'ai peur pour moi aussi, des fois, quand je me dis « Ok, je participe par exemple à ce tremplin international et tout », c'est déjà un truc de rentrer dans une logique d'industrie, de carriérisme. Donc, je peux juger ça aussi chez des gens qui, par ailleurs, vont avoir des textes politiques engagés. En même temps... je trouve ça trop facile de juger comme ça, parce que faut voir de qui ces personnes s'entourent, comment elles travaillent, comment en dehors elles font de la transmission, ou si elles s'engagent par ailleurs dans des assos, etc. Donc, parce que en fait, on est dans un monde capitaliste, et après il y en a qui vont lutter contre ça en étant à l'extérieur, en cherchant vraiment à révolutionner un peu ce système. Mais il y en a d'autres qui vont se mettre dedans et qui vont... parce que c'est aussi, il faut dire que c'est très dur d'en vivre quand on est à l'extérieur. Enfin, de se dire qu'on va vivre de sa musique si on n'est pas dans une logique de carrière et de développement de projet, voilà, parce que c'est ce qu'on nous pousse à faire. Donc, je comprends qu'on fasse ce choix d'être dedans ce système-là. Pour vivre bien, sans chercher un luxe absolu, mais de, effectivement, l'argent qu'on engrange, etc., qui serve toujours ce projet, qui serve toujours le propos artistique. Enfin, pour moi, c'est quand même hyper important. L'art est de moins en moins financé, la culture aussi. Donc, en fait, j'en veux pas du tout aux gens qui sont dans une logique des fois très capitaliste. Enfin, j'avais vu un post comme ça sur Théodora, justement, où il y a plein de gens qui lui reprochaient, parce qu'elle est vraiment... Enfin, c'est une star, quoi. Qui lui reprochaient d'être hyper capitaliste, de faire vraiment... d'être dans une logique, voilà, de faire des sous, etc. Mais en fait, par ailleurs, elle apporte tellement de choses à la musique, de représentation, elle a quand même des propos qui, je pense, ouvrent un peu les horizons du rap, de la musique pop, enfin de plein de choses qui, certes, sont toujours, on va dire, comment on appelle ça, vampirisées par l'industrie et par le système capitaliste, mais qui permettent quand même par ailleurs, de l'autre côté, ben, à plein de jeunes de s'identifier, de s'autoriser à être eux-mêmes, de s'autoriser à faire de la musique, à parler d'eux-mêmes dans ces musiques. Enfin, pour moi, ça ouvre d'autres portes qui sont hyper importantes. Après, faut trouver un moyen de détourner en fait ces trucs-là, de détourner. Moi, j'aime bien les gens qui sabotent un peu les trucs qui sont dans le système et qui vont en fait trouver un moyen de détourner les choses, de redistribuer par exemple l'argent d'une façon ou d'une autre. En fait, des fois, je trouve aussi ça fort d'être autant dans l'industrie, d'être aussi visible aussi, avec une image aussi publique, enfin, et d'être engagé. Et après, c'est hyper facile de juger les gens sur leur mode de vie, aussi parce que bah, y a plein de ces artistes-là qui montrent une partie de leur mode de vie, parce qu'on nous demande de montrer nos vies sur les réseaux, c'est ça qui accroche, c'est ça que les gens veulent voir, presque plus que la musique. Et du coup, tu vois que bah oui, on n'a pas les mêmes modes de vie, ils ont fait un peu carrière et tout. Et en même temps, on est qui pour juger leur façon de vivre leur vie ? Déjà, comment ils font leur art ? Est-ce qu'ils prônent derrière ? C'est des fois important. Et des effets que ça produit. Et après, bon, bah, qui montent leur vie ou pas ? Enfin bref, c'est d'autres questions, je trouve. Ça, mais je trouve que ça parasite vachement la pensée aussi de dire « Ah, on a accès à un bout de leur vie. On a l'impression de les voir sur les réseaux. » Enfin bref, de les connaître, quoi. L'impression de les connaître.
Bien, en quoi le territoire sur lequel tu vis influence ta manière de créer ou de faire ta musique?
Bah déjà, dans ce que je vais aller voir ou écouter comme concert, là, depuis que... Parce que je suis à Grenoble depuis 10 ans maintenant, 11 ans, et je suis partie un petit peu, et je suis revenue. Et quand je suis revenue, par exemple, je me suis vachement plus retrouvée dans des milieux musique électronique ou musique un peu expérimentale. Enfin, ouais. Et aussi, notamment en intégrant le ciel, la salle du ciel en tant que résidente, et ben, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient ces musiques-là. Et en fait, à Grenoble, il y a un énorme vivier de personnes qui font des musiques électroniques parce que ben, on est dans une ville d'ingé. Et les ingés, ils aiment bien geeker comme ça. Et il y a Arturia aussi, une boîte qui fait plein de synthé. Et voilà. Du coup, il y a un peu ce vivier-là. Et là, ça m'a, je pense, pas mal influencé pour ces derniers mois et puis même pour ce que je suis en train de composer pour la suite. Et après, en termes de vraiment de territoire, bah, y a la sensation de... Moi, j'ai grandi à La Réunion. Donc, en fait, je suis sur un territoire qui n'est pas La Réunion. Donc, mon objectif, à plein de moments, c'est aussi de me remémorer un peu des paysages ou des situations qu'il y avait là-bas quand j'étais petite. Donc, voilà, finalement, c'est un peu en contraste que je pense que j'ai envie de parler de ça. Peut-être que si j'avais continué à vivre à La Réunion, j'aurais pas du tout parlé autant de ça.
Ok. Comment le succès auprès du public peut influencer la façon dont un artiste crée ses morceaux ?
À partir du moment où on voit qu'on fait une musique qui est bien reçue et qui marche, dès lors que, je sais pas, le lendemain, on n'a plus envie de la jouer, où on n'est plus trop dans cette esthétique-là, on a envie de partir sur autre chose, on se demande « Est-ce que les gens vont nous suivre quand même encore ? Est-ce que les gens vont quand même aimer ?» Ça dépend vraiment de comment on construit notre rapport au public aussi. Moi, j'ai l'impression que quand je rencontre un public, je dis pas que je suis une spécialiste du maloya ou du rap et que c'est ça ou rien. C'est plutôt « Ah, je suis une personne et j'ai plein de facettes ». Et du coup, là, je vous montre mes facettes à un instant T et j'essaie de construire ce lien de confiance aussi qui fait que si demain, j'ai envie de changer, de rester libre dans la création et de choisir ce que je veux faire et tout, ben, que les gens me suivent quand même. Après, il y a forcément qui vont décrocher parce que c'est une affaire de... Même s'il y a des gens comme mes proches, par exemple, qui, je pense, me suivraient, même si je fais du gabber, créole, hardcore, hyper pop, bref, je sais pas. Mais je pense qu'il y en a qui sont pas, on n'est pas assez proches pour... je veux dire, ce qui est important, ça reste la musique. Et du coup, s'il y en a qui n'accrochent pas, c'est comme ça. Mais voilà, je pense que c'est ça. Plus on est public, on a une image publique, etc., ben, plus on se pose la question de qui réagit au contenu quand on poste, qui me suit, pour quelle raison ? Est-ce qu'on me suit pour la musique, justement ? Et si je change, ça va tout changer ? Ou est-ce qu'on me suit pour mes propos ou ma posture ? Et du coup, là, a priori, je pense que je suis assez constante. Donc là, c'est un peu plus durable. Ou est-ce qu'on me suit pour mon physique ? Je sais pas. Si je me coupe les cheveux demain, peut-être... Donc oui, je pense que c'est la peur de l'abandon. Après, il y a aussi ce truc de... Il y a des gens qui ont un succès sur un type de morceau et qui se disent « Ah, trop bien, c'était mon morceau préféré de l'EP. Alors maintenant, je vais faire que ça. » C'était, je sais pas, un zouk. Alors je vais faire que du zouk parce qu'en plus, ils aiment bien. Et en fait, les gens peuvent se lasser aussi. Le succès, c'est tellement ponctuel que ça peut pas être une base de réflexion à long terme. Enfin, on peut analyser un peu la chose, mais ça doit pas devenir une règle dans le projet, quoi, parce que je pense que ça bouge trop.
Comment l'industrie du rap influence ce qu'on écoute et ce qui est produit aujourd'hui ?
Le truc, c'est peut-être que avant, les majors avaient cette logique vraiment dans le but d'engranger de l'argent sans chier, alors que peut-être d'autres labels, d'autres pros de l'industrie ont plus, vu qu'il y a plein de choses qui sont financées, subventionnées aussi. ben, en plus, ce côté prise de risque. On a envie de prendre des risques, on a envie de soutenir des artistes vraiment qu'on aime, des genres un peu, enfin des nouveaux genres, de parier sur ah, ce truc, ce mélange-là est super bizarre, mais je suis sûre que demain ça va être le nouveau rock, tu vois. Et ben, après, bah, de moins, on a de moins en moins de sous dans l'industrie, et du coup, il y a moins de place et d'occasion de prendre des risques. Et du coup, bah, en fait, l'industrie du rap, j'imagine, comme de. La grande pop, les majors et tout, bah, ça va être beaucoup aussi... Ils vont regarder des projets un peu calibrés qui aussi sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est quand même un paramètre hyper important, si sur les réseaux, ça marche, si les gens accrochent. Il y a ce pan-là, mais il y a aussi tout un pan de projets un peu radicaux qui ont été poussés par l'industrie et qui ont fonctionné, mais qui sont quand même un peu des ovnis, ben, comme Théodora, en vrai, ou Théa, par exemple, qui... Et aussi un peu un ovni, enfin pas un ovni, mais je veux dire, c'est un peu une prise de risque, quoi, avec l'hyperpop et tout. Voilà, je pense que l'industrie crée un peu des modes, de toute façon. Et puis, mais bon, on regarde quand même beaucoup ce que ça peut rapporter comme argent. Et voilà, c'est là que ça peut comment dire, être compliqué, surtout en tant qu'artiste, de faire sa place, quoi.
Tu dirais que les auditeurs de rap, ils recherchent quoi aujourd'hui dans les morceaux ?
Moi, j'ai l'impression quand même que dans le rap, il y a quand même toujours eu une recherche d'authenticité. Je pense que les gens, ils cherchent un peu un côté authentique. Il faut qu'on ait vraiment la sensation que la personne qui... Enfin, ce que dit la personne, elle l'a vraiment vécu. Voilà. Après, aujourd'hui, dans le rap, il y a plein de gens qui cherchent aussi un truc hyper second degré, humoristique... Où un peu je me prends pas la tête. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et je comprends parce que, vu le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup à penser tout le temps. Et des fois, genre, sans qu'il y ait, en plus de se demander comment on va vivre dans 30 ans, quoi, ou même demain, et ben, de en plus écouter des textes qui parlent de ça, qui parlent de notre société, machin. Enfin, des fois, je pense que les gens ont aussi besoin de se détendre, et enfin, de se détendre, de penser à autre chose, et voilà. Et du coup, il y a du rap. Pour ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent du rap pour ça.
Ok, et comment, quel rôle, selon toi, le rap peut jouer dans le débat politique et social ?
Eh ben, mine de rien, ça fédère quand même souvent, parce qu'il est très, ce qui est récurrent quand même dans le rap par rapport à d'autres genres musicaux. Enfin, il y a eu ça dans le rock aussi, dans certaines années et tout, mais dans le rap, il y a toujours ce truc très fort de la communauté. Bon, communauté de rappeurs, mais surtout communauté liée aux rappeurs. C'est-à-dire, t'as le rappeur qui est un peu le gourou, quoi. Et il a sa communauté qui est de fans qui va les suivre et tout. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment les rappeurs et les rappeuses peuvent se servir de ce truc-là. Et c'est ce qui avait été fait pour les législatives. Il y a eu No Pasta Run, un espèce d'énorme freestyle avec plein de rappeurs. Et en fait, dedans, bon, il y a plein de rappeurs problématiques, il y a plein de rappeurs qui disent des dingueries, il y a plein de problèmes dans ce morceau, mais on a vu quand même que ça a créé un élan pour les communes de ces différents rappeurs, de voir plusieurs rappeurs se fédérer. Ça crée aussi une légitimité aux propos, à ce qu'ils défendent. Et du coup, je pense que ça... Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément politisés quand ils écoutent le rap, ou justement des rappeurs qui sont pas forcément politiquement engagés dans leur texte vraiment, mais qui en faisant ça, et ben du coup ça ramène leur communauté un devoir un peu de se positionner, de se dire ah oui alors il dit ça, est-ce que moi je suis d'accord ou pas, ok est-ce qu'il faut que j'aille voter ou pas. Donc ça a un impact quand même, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'audience, qui ont beaucoup de visibilité. Après je pense que juste avoir des espaces d'expression en général à une plus petite échelle, hein. Là on parle de la grande échelle des grands rappeurs qui ont des communes, mais à plus petite échelle dans les quartiers, dans les MJC, à l'école, enfin pour plein de raisons, ben, avoir des espaces d'écriture, d'expression, on entend d'autres gens parler de ce qu'on peut ressentir. Du coup, ça permet forcément d'aller un peu mieux, de comprendre des choses de soi, des autres. Donc voilà, je pense que c'est politique aussi, ce truc à cette échelle très intime, de se dire « Ah, je me reconnais dans tel morceau ou dans tel artiste, donc soit moi je vais écrire aussi, donc j'ai envie d'écrire ma propre histoire, ou alors juste je sais que je suis pas seule dans ce monde à ressentir ces choses-là. Donc ça c'est plutôt bien et politique, je trouve.
Et comment est-ce que tu vois l'avenir du rap ?
Je vois pas mon propre avenir, alors l'avenir du rap parce qu'en plus le rap, je pense que ça n'existe plus, enfin je sais pas si ça a déjà existé, mais il y a tellement de branches. Enfin, je veux dire, on peut pas parler de l'avenir du rap commercial comme de celui du rap engagé, comme de celui du rap expérimental. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a tellement de branches. Je pense qu'il a un avenir, ça c'est sûr. Enfin, très encore, sûrement infini, parce que c'est quand même. Ça s'adapte à plein de genres musicaux. Enfin, c'est pas comme de l'opéra, par exemple. Enfin, le chant lyrique, c'est quand même un autre. C'est très contraignant comme forme. Le rap, c'est hyper libre, en fait. Parce que tu peux t'adapter à plein de tempos différents. Je trouve que la forme est tellement libre que ça va durer. Après, je sais pas sous quelle forme. Je pense que ça va toujours changer, évoluer. C'est déjà tellement de formes différentes. Je sais même pas laquelle autre on pourrait inventer, mais il y en aura sans doute une. Donc voilà. Après, d'un point de vue économique et genre de l'industrie, j'ai l'impression que ça marche, mais que, en fait, le rap... il faut quand même avoir maintenant un personnage ou un truc qui... Enfin, c'est toujours la question de se démarquer. Parce que maintenant que tout le monde fait du rap, bah, du coup, il faut se démarquer. Et du coup, l'industrie, elle va chercher peut-être des formes de rap, soit qui rentrent vraiment dans ce qu'on recherche exactement du stéréotype du rap, soit dans un truc complètement what the fuck et autre, un peu ovni, quoi.
On va revenir un peu juste à toi. Si tu devais définir ta musique en 3-4 mots, comment est-ce que tu la définirais?
Foisonnante, polyphonique, puissante et douce.
Merci beaucoup du coup pour ces réflexions que tu nous as apportées et cet échange qu'on a eu. C'était fort intéressant, ça nous a plongé complètement dans ton univers qui est autant rap que autre en fait. Et donc vous pouvez retrouver du coup Luambé sur les plateformes, mais aussi sur scène. Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était L'Écho des Raps, le podcast qui explore le rap de la scène à l'écoute.
L'Écho des Raps, L'Écho des Raps, L'Écho des Raps.